UTMB 2022. Jour après jour, le Duc pose les pierres une après l'autre pour bâtir sa performance, son résultat. Alors voyons tous ensemble ce qu'il a effectué aujourd'hui pour aboutir à un succès certain le jour de la course.
Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour le podcast journalier UTMB J-19. Et ça y est, on est dans les trois dernières semaines et aujourd'hui, c'était la dernière grosse sortie à pied à faire, qui a un peu tourné au jus de boudin, mais ça je le savais. Et en attendant, le thème du jour, c'est comment traverser la longue nuit de l'UTMB, une question de Bart. C'est vrai que donc des UTMB, j'en ai fait trois, et puis des courses où on passe pas mal de temps dehors, un peu la nuit, j'en ai fait... deux fois les Canaries, une fois le Lavaredo. Pas beaucoup en fait. Et en 2018, donc sur mon premier UTMB, déjà la préparation était catastrophique. Mais surtout, j'avais passé une nuit random, tu vois. J'avais pris la course comme ça, quoi, comme elle vient, tu vois. Pas d'anticipation particulière. Et après la nuit, putain, je commençais à m'endormir un peu partout. C'était vraiment effroyable, cette sensation d'être d'un coup tout mou et d'avoir sommeil. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, si le 100 miles, c'est ça, moi, j'arrête tout de suite. Enfin, c'est nul, quoi. Du coup, j'ai cherché un peu des solutions. Alors, évidemment, y a des gens qui m'ont un peu aidé. Et puis, on a trouvé, quoi. Donc, si tu veux les recettes qui vont fonctionner plus ou moins bien, évidemment, ça marche. À condition que tu arrives sur ton 100 miles suffisamment bien entraîné. Attention, parce qu'il ne faut pas être trop entamé non plus. C'est pour ça que là, vous allez voir, on va attaquer le repos. Hein, là. Donc attention, hein, là, ça va se reposer sévère. Vous allez être choqué. Vous allez être choqué. Tout le monde va être choqué, en fait, par le repos. Parce que les gens ne se reposent pas assez. Il faut déjà arriver dans une bonne forme sur le format 100 miles. Et une fois qu'on est en bonne forme au départ, donc ça, c'est très très bien, il y a des petits tips, des petits trucs... des petits hacks, comme on dit maintenant sur les vidéos YouSgeg pour te vendre des formations. Voilà, je vais vous donner les trois meilleurs hacks pour devenir millionnaire en 3 ans. Bah oui, bien sûr. La première, celle qui, je pense, fonctionne, mais du feu de Dieu sur moi. Alors, selon Sébastien Diefenbrom, mon nutritionniste, qui a lu des méta-analyses, c'est les trucs chiants où les mecs ils brassent plusieurs études entre elles pour sortir vraiment un résultat probant. Ça n'a pas de raisonnement scientifique, ce que je vais vous dire. Mais la privation de café 14 jours avant. Alors, si vous ne buvez pas de café, ça ne marche pas, évidemment. Mais si, comme moi, vous appréciez un bon café, c'est-à-dire un café issu d'une torréfaction artisanale, qu'il soit en grain ou moulu, hein, mais c'est issu de la torréfaction artisanale pour avoir un vrai goût, et que vous en buvez, je sais pas, moi je dois prendre 4 expressos par jour, c'est ma moyenne, je pense. Ah, ma moyenne doit être un peu plus basse. Parce qu'il y a des jours où j'en prends pas, genre quand je fais une sortie très longue, enfin où j'en prends juste un le matin, mais ça fait baisser la moyenne. Bref. Disons, partons sur 4. Et 14 jours avant l'UTMB, donc c'est vendredi prochain, ça va être chiant. 14 jours avant l'UTMB, on ferme le robinet, plus de café. Alors... attention, je vous vois venir, évidemment plus de thé non plus, parce que le thé est aussi un excitant avec sa théine. Si vous avez des compléments alimentaires qui contiennent du guarana, c'est pareil, vous le dégagez, parce que dans le guarana, il y a encore un pourcentage de caféine. Tiens, d'ailleurs, ça veut dire plus de nu power pour moi à partir de vendredi aussi, parce qu'il y a du thé vert dedans. 14 jours sans l'absorption de caféine et théine. Alors... qu'est-ce que ça fait? En gros, votre corps est plus habitué à recevoir sa petite dose journalière de caféine. Au début, vous allez avoir... Ça dépend un peu des gens, mais c'est comme avec toutes les drogues. Vous allez avoir 5 jours où vous n'allez vraiment pas être bien. C'est possible que vous ayez la tête qui tourne un peu, que vous vous sentiez excessivement mou. Et puis au bout de ces 5 jours, voilà, normalement, vous êtes plus ou moins sevré, et puis après, ça va. Donc 14 jours, c'est vraiment pour être sûr. Mathieu Clément, qui est là en stage à Tignes aussi, il fait un mois, lui, hein, putain. Un mois, le mec. Et à un moment donné, en fait, une fois que votre corps est plus ou moins sevré de sa caféine, à ce moment-là, vous démarrez la course. Et là, paf, vous lui sortez de la caféine. Et là, il est comme un dingue, tu vois, il n'en avait pas vu depuis longtemps, il est tout excité. Donc moi, ce que je fais, c'est que je consomme de la caféine à partir des contamines. Alors, je vais pas boire un café parce que, tu sais, faut qu'on te le serve, c'est long, faut attendre qu'il refroidisse. Évidemment, sur les ravitaux, c'est dégueulasse. Donc, je prends de la caféine en poudre de chez Nutrimuscle, mais il doit sans doute y avoir d'autres personnes qui en font. Il faut prendre de la très bonne qualité parce que sinon, vous allez juste transpirer comme un goré, ça va servir à rien. Donc là, Nutrimuscle, c'est de la green caféine, elle est évidemment issue de l'agriculture biologique. Et effectivement, en fait, je sens très peu de choses quand je la prends. Du moins, pas... vous savez, un coup de boost terrible pendant 5-10 minutes, et puis derrière... Donc, ça m'a l'air d'être plutôt de la bonne qualité, parce qu'en général, j'ai un rythme assez constant, j'ai pas de problème la nuit avec ça. Et toutes les 3 heures, bam, 100 mg, tu vois, un cachet, bam, 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 bam. Alors, par inadvertance, l'an passé, Aubin a pris 2 cachets d'un coup, donc 200 mg. C'est pas très grave, c'est pas mortel, mais on est plutôt sur une très très haute fourchette, en fait. Du coup, il était particulièrement excité, et il a monté le col du bonhomme un peu vite, ce qui l'a contraint à l'abandon plus tard. Donc, méfiance, voilà. Prenez bien les dosages et tout, faites bien attention à ça. Aussi, la nuit, il faut manger salé. Pour rester éveillé, il faut manger salé. Donc, bah, moi, j'ai mes barbaou salées, la sarrasin olive, je m'en délecte, et la betterave aussi. Les autres, j'aime pas trop les autres. Et puis après, j'aurais mis sushi au contaminé à Courmayeur avec une sauce soja, donc là, ultra salée, tu vois, donc top, quoi. Le sushi, je vais le prendre, donc ça va être du saumon entouré de riz, hein, ça s'appelle un maki, d'ailleurs. Parce que faut aussi manger très protéiné la nuit. Alors, très protéiné, attention. Si la nuit, vous ne mangez pas de glucides et que vous vous mettez à taper des entrecôtes à tous les ravitaux, ça ne va pas le faire. Mais, globalement, si vous avez un apport protéique à répartir sur l'UTMB, bah, ça va être pas mal d'essayer de le centraliser un peu la nuit. Donc déjà, à Courmayeur, vous prenez quelque chose d'assez protéique. En toute simplicité, vous attrapez 2 tranches de jambon au ravito. Voilà, ça, ça fait le taf. Ça ne mange pas de pain. Idem à Courmayeur. Bon, après, c'est vrai que vu que c'est de l'ultra-trail, en fait, même la journée, vous allez bouffer un peu protéiné, quoi. Mais surtout, faut pas l'oublier la nuit. Et on peut avoir tendance à le faire, c'est assez vicieux parce que au contamine, tu viens de partir, t'as fait quoi 3h. Moi, je vais passer en 3h07 cette année, contre 2h50 l'an passé. C'était un peu excessif. Voilà, t'as fait à peu près 3 heures de course, bon, t'as pas spécialement envie de te taper du jambon, tu vois. Et bah, si. Et bah, si, il le faut. Une autre astuce, en fait, je vais. Parce qu'avec Sébastien, on se casse la tête pour avaler suffisamment de calories, c'est pas facile. Un truc diabolique, c'est le sachet de noix de cajou salée. Tu sais, les petites merdes apéro, avec des noix de cajou, hein, pas avec de la bouse. Hein. Mais salé, tu sais, c'est salé à mort, ça. Hein. Et bah, manger protéiné et salé la nuit, c'est pas mal. Et avec les noix de cajou salées, donc je vais emmener le sachet, je vais prendre le sachet dans la main, je vais le coincer dans le gantelet de mon bâton, là, et je vais manger ça gentiment jusqu'à Notre-Dame du Zboubi, et ça va très bien se passer. Il faut aussi une lumière vraiment forte, blanche, qui vous pète les yeux, il faut essayer sur votre frontal vraiment de mettre de la puissance, quoi. Donc là, c'est pour ça que je vais emmener 2 batteries de rechange avec moi. Parce que je veux surtout pas me dire « Oh là là, je vais économiser, je vais éteindre un peu ma lumière. » Non, 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 ça va m'endormir. Donc là, paf, j'éclaire comme un cochon. Et quand j'arrive à Courmayeur, je rechoppe 2... tiens, faut que je note ça. Je rechoppe 2... de recharge. Voilà, moi, c'est des recharges, une petite batterie au lithium là, que j'emmène dans son petit plastique. Et puis un dernier truc, il faut bien s'habiller. En ça, en passé, je m'étais fait piéger, justement. On monte le col de Seigne, bon, il faisait un peu froid, mais c'était pas excessif. Et arrivé au sommet du col de la Seine, en fait, Diego Pazos et Ludovic Pomeray avaient déjà mis leur veste en bas du col, donc tranquille, sans vent. Et les deux petits jeunes, plus malins que tout le monde, n'avaient pas mis leur veste, donc Grégoire Kermer et Hugo Ferrari. Et qu'est-ce qui s'est passé? Grégoire Kermer a mis sa veste au sommet, puis il est rentré à la descente parce que, bon, il est costaud. Et puis Hugo, plus malin que tout le monde, il s'est dit, bah tiens, je vais la mettre dans l'autre montée aux pyramides calcaires. Tu vois pas que dans la montée des pyramides calcaires, il y avait un vent de connard? Et ma veste s'est envolée, en fait. Donc c'est très déstabilisant quand au bout de 65 km et de 7-8 heures de course, votre veste se barre dans la nature à cause d'une putain de rafale de vent. Et du coup, vous devez aller la chercher comme le dernier des cons avec votre frontale dans un pierrier pas possible. Donc à ce moment-là, je l'avoue, j'ai peut-être perdu mon sang-froid et il est possible que j'ai prononcé des gros mots. Voilà, donc bien s'habiller en amont, en fait. Voilà. Si t'as pas eu besoin de te courir dans le col du bonhomme, bon, pourquoi pas. Mais quand t'arrives au chapieux, tu prends la veste, tu la sors du sac, tu la mets pas trop loin de toi, parce que tu sais que tu vas devoir la boutonner sans doute dans le col de la Seigne. Pareil, les gants et le bof qui soient à portée. Gants, bof, bonnet, moi j'y mets dans ma ceinture. Voilà. Pour que la nuit, en fait, t'aies pas à lutter contre le froid. Ce qui va t'assoupir un petit peu. Moi, bon, à chaque fois que je prends un coup de froid, franchement, derrière, je fais vraiment des genres de siestes. Enfin, pas des siestes, je fais pas des siestes, mais des très, très bonnes nuits. Quand je fais du ski de fond, l'hiver. Déjà, l'été, on a du mal à vivre, alors faire du ski. Quand je fais du ski de fond l'hiver, hein, putain, tu peux être sûr le soir, mais je dors, mais comme un bébé, parce que j'ai passé 2, 3, 4, 5 heures dans le froid. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bah, c'est tout. Voilà, c'est un petit peu tout mon protocole. Donc, tu vois, Bart, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de truc ultra magique, hormis acheter un complément de caféine plutôt pas vilain, quoi. Parce qu'une fois, j'avais acheté de la merde sur MyProtein. Et bon, autant ça peut faire le taf, hein, pour certaines choses. Mais leur caféine était vraiment dégueulasse. C'était impossible à digérer, c'était vraiment atroce. Oh putain, je vais prendre une bière de récup. Ah, tu m'excuses, j'ai une soif terrible. Eh oui, c'est le moment de vous parler de l'entraînement du jour. Alors, l'entraînement... Il est où mon décapsuleur? L'entraînement du jour... Putain, mais je range pas, c'est terrible. L'entraînement du jour... Bon, alors, vous le savez, vous l'avez tous lu comme moi. Le coach avait prévu 12 heures. Évidemment, c'était débile. Il y avait une semaine de 43 heures de prévu. Et en fait, j'ai compté. Parce que j'ai quasiment tout fait cette semaine. J'ai quasiment tout fait. Et au final, j'arrive à 40 heures. Alors qu'aujourd'hui, j'ai fait une sortie de 7h30. Ah, voilà, elle est ouverte. Donc en fait, le mec, il m'avait fait une semaine de 45 heures. Comme ça, sans pression, au calme. Parce qu'il m'avait dit, ouais, t'es en manque d'entraînement et tout. Mais quel manque d'entraînement? Qu'est-ce que c'est que ça, là, Patrick? Donc, je vous l'avais dit. Dès que j'ai reçu le plan d'entraînement, je vous l'avais dit. Voilà, cette semaine, on va adapter, on va pas tout faire. On va aller dans la philosophie du truc, dans l'essence de ce qui est intéressant. Ah, ça fait du bien. Mais on va pas bêtement exécuter ce qui est demandé, parce que c'est quand même... Alors après, je sais pas, peut-être j'aurais eu une forme de gros salopard. J'aurais tout fait, mais... Là, franchement, les 6 premiers jours de la semaine, bah j'ai fait ce qui m'était demandé. Donc déjà, rien que là, si tu veux, j'étais agréablement surpris. Et hier, les descentes un peu rapides, tu vois, dans du raid sur des pistes de ski, là, putain, ça m'a défoncé la gueule. Ouah, ce matin, je me suis levé. Alors déjà, c'était étonnant parce que j'avais du mal à me lever ce matin. Tu sais, j'étais dans mon lit. Puis vraiment, je dormais bien. Ce qui est étonnant, parce que moi, d'habitude, à 6h, voilà, je suis levé. Et là, j'étais dans mon lit, 7h, 7h30. Puis j'ai dit, bon, après, il faut quand même que j'aille déjeuner, sinon je vais pas aller courir. Donc déjà, tu vois, ça puait un peu. Et je suis parti. Et là, oui, voilà, il y avait la hanche droite qui tirait. Première descente, les deux genoux, ils m'ont dit, ouais! Donc là, Ah, la tête était lourde. Enfin, j'ai senti vraiment le corps était meurtri, meurtri, meurtri. Quand je suis dans cet état-là, j'arrive quand même à me forcer, à avancer, pas vite, mais à avancer. Et en fait, là, d'un coup, tu sais, tu bascules et tu creuses vraiment ta tombe. Et donc là, je le savais, je me dis, putain, Hugo, c'est... Là, quand même, l'état de forme, il est pourri. Et heureusement, j'étais avec trois amis, donc Fabrice Fauzé, qui va être sur la TDS, Mathieu Clément, qui est le 10e de l'UTMB l'an passé, et puis un ami à eux, Suisse, Simon, j'ai oublié son nom, mais lui, il va faire le grand raid. Et du coup, ça allait pas mal. On a fait 5 heures ensemble. Après, ils sont rentrés. Et moi, j'avais tracé un tour qui passait derrière une autre montagne et qui revenait ensuite sur Tignes par le barrage. Et à l'issue de ce tour, j'aurais dû avoir 55 ou 58 km, je ne sais plus, et à peu près 3500 mètres de dénivelé. Et puis je me suis dit, je finis ce tour, déjà, c'est beau. Si jamais j'ai une force surhumaine, je prends un sandwich à la boulangerie et je repars faire 3-4 heures. Puis sinon, je m'arrête là et tout va bien. Et je savais qu'il y avait les orages qui étaient annoncés, donc je me suis dit, s'il y a les orages, il y a les orages. Et là, on buvait un petit coca avant de repartir avec Mathieu et Simon. Et c'était le moment où on allait se séparer. Et putain, les nuages noirs commencent à arriver, et je leur dis, c'est pas raisonnable. Les orages en haute montagne, c'est dangereux, allez, je rentre avec vous. Et on arrive au croisement, et je leur fais, finalement, je vais quand même faire... Donc j'avais un KV à monter. Je leur dis, je vais quand même monter la bosse, là, parce que c'est un chemin où je suis pas allé. Derrière, il y a une vallée où je suis pas allé. Franchement, ça me ferait mal au cœur de pas le faire, j'y vais, quoi. Puis, dans mon sac, j'ai pris les manchettes, j'ai pris un buff, j'ai pris un bandeau, j'ai pris une casquette. J'ai pris la veste de pluie, j'ai pris des petits gants en laine et j'ai pris des gants imperméables à mettre par-dessus. Je me suis dit, c'est bon, même s'il se met à avoir des orages et à pleuvoir, je vais survivre, quoi. 3-4 heures sous la pluie, je vais survivre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je monte. Et les nuages noirs approchent, tu vois. Ça commence à péter un peu au loin. Je me dis, les orages prévus arrivent. Arrivé au sommet, j'ai juste le temps de faire une photo, après il se met à pleuvoir. Donc là, j'étais à 2840 mètres d'altitude, ce qui est assez déstabilisant quand vous avez une mauvaise météo là-haut. Je descends, il y avait 7 bornes pour arriver à un espèce de parking de départ de rando. Donc là, c'était la panique, hein. Tu vois, tous les randonneurs, tous les marcheurs un peu en famille, là, ils rentraient avec les vestes sur le dos en se dépêchant d'aller à la voiture. Et puis, il me restait 500 de dénivelé à faire pour descendre sur le barrage de Tignes. Et donc, je me dis, c'est bon, quoi. Là. Et là, je m'étais tout équipé, tu vois, j'avais la veste et tout. Sauf que la descente, en fait, c'était un tout petit sentier dans un champ merdique avec des longues traversées au début. Donc là, j'ai bien pris la pluie dans la gueule. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, il s'est mis à grêler. Des jolis grêlons, hein, plutôt beaux. Il s'est mis à grêler et du coup, j'étais quand même pas très très rassuré. Le chemin, il est vite devenu détestable parce que le problème, c'est que là, on est en alerte rouge sécheresse en Savoie. Du coup, les sols sont hyper secs et quand il pleut très fort d'un coup sur un sol hyper sec, en fait, la pluie ne pénètre pas à l'intérieur, elle ruisselle. Donc déjà, du coup, ça sert pas à grand-chose. Bon, c'est toujours mieux que rien, mais ça sert pas à grand-chose. Et ça te fait un torrent d'eau sur le chemin. Et c'est une horreur à courir, mais ça glisse dans tous les sens, c'est chiant. Et puis, avec la grêle par-dessus. Donc si tu veux, je descends bon gré mal gré au barrage. Et là, au barrage, je mets un pied sur la route. Le truc s'intensifie, quoi. La route, elle est devenue blanche de grêlon. Donc là, je me dis, voilà... Peut-être, c'est un signe de Dieu. Là, il me pisse dessus, et bientôt, il va me chier dessus. La taille des grêlons va augmenter, il va m'assommer. Donc, je me suis dit, peut-être, c'est le moment de mettre un terme à tout ça. Et c'est vrai que du coup, j'ai attrapé une voiture pour qu'elle me monte en stop à Tignes. Parce que par la route, à ce moment-là, par la route, j'étais à 5 km de Tignes-Lac. Moi, je suis à Tignes-Val-Clair, donc 7 bornes. Et sinon, par les chemins, il aurait fallu que je monte un peu au-dessus des bois, c'est que je retrace tout droit. Ouais, bah, il devait rester une petite dizaine de kilomètres. Bref. Le problème, c'est que pour rentrer par les chemins, en fait, fallait tirer direction le Mont Pourri. Et le Mont Pourri porte ce nom parce que bah, quand il fait mauvais, les nuages s'accrochent au sommet et ils pissent partout autour. Donc là, ça pissait beaucoup sur l'endroit où je voulais aller. Vu dans l'état où j'étais actuellement, je suis monté dans la voiture et tout va bien, ils m'ont emmené au Tin Lac. Et après, j'ai pu terminer mes 2 petits kilomètres pour arriver chez moi, ce qui nous a fait 50 bornes sur la journée. Écoute, c'est pas mal, hein. Voilà, donc je suis bien content parce que... Évidemment, si tu regardes la séance du jour, tu vois 12 heures, j'ai pas fait les 12 heures, tu te dis, bah c'est nul. Mais c'est pas ça qu'il faut voir, c'est... Et demain, je vous ferai la comparaison, en fait, entre l'an passé et cette année, sur le dernier mois de préparation. Et vous allez voir qu'il y a un petit biais, d'ailleurs. Mais là, en gros, quelle était la philosophie de la journée? La philosophie de la journée, c'était de dire, voilà, tu prends ton sac, tu prends à boire, à manger, et tu pars dans la montagne toute la journée, quoi. C'est vraiment la journée, voilà, là, tu es très fatigué, tu pars, t'avances, et tu reviens le soir exténué. Bon, là, je suis revenu à 16h30, mais j'étais exténué. Plus, ça aurait été délicat, hein, parce que là, déjà, bon, il y a une descente, je me suis accroché les pieds, j'ai failli me rétamer. Ah non, j'ai pas eu d'alerte cheville, ouais, ça... Mais bon, franchement, j'ai la tête vraiment, tu sais, avec les yeux, tu sais, qui se ferment un peu et tout. C'est dangereux, ça, dans les chemins, quand même. Donc voilà, moi, je suis content, je pense que j'ai tout à fait respecté la philosophie. De toute façon, j'en ai profité pour appeler un peu le coach, là, j'avais du temps, il m'a dit, c'est très bien, très très bien, voilà, 40 heures, hein, sur la semaine. Donc je veux dire, on était déjà dans l'excès, hein, avant ce matin. Donc c'est très bien. Il n'y a pas eu de blessure, tout a été fait. Donc bah voilà, il faut être fier de soi. Parce qu'en fait, quand le coach fait un programme, voilà, c'est pas votre papa, hein, il n'est pas avec vous tous les jours. Hein, puis bon, de toute façon, quand on a 30 ans, notre papa, normalement, il n'est pas avec nous tous les jours. Et du coup, lui, il élabore quelque chose qu'il juge nécessaire, puis vous en face. Et là, en fait, quand il a pondu la semaine, Patrick, il y avait un petit biais, quoi. Il disait que j'étais un peu en sous-entraînement. Bah, vous verrez demain, quand on fera les comparaisons de blocs, vous pouvez directement aller voir sur ma story Instagram. Je suis pas trop en sous-entraînement, quoi. 127 heures dans les 4 dernières semaines. Non, c'est pas du sous-entraînement, Patrick. En plus, j'ai pas mal bossé en juillet, donc franchement, c'était dur. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je suis très content. Voilà. La préparation est derrière moi. Maintenant, on va passer à quelque chose de plus... Voilà, du repos. Bon, il y a encore une sortie longue à vélo. Mais c'est pas pareil, ça casse pas vraiment le vélo. Et, voilà, ça va être du repos. Beaucoup de repos, là, une bonne semaine. À part la sortie longue à vélo. Et puis derrière, une remise en jambe. Voilà. Avec une montée en pression qui va être sensationnelle. Vous n'étiez pas là en 2016. Il n'y avait pas non plus Nolio en 2016. Mais en fait, j'ai réalisé une préparation un peu similaire pour la TDS. Alors j'avais fait moins d'heures parce que j'étais ingénieur. Et j'avais du mal à faire plus de 22 heures par semaine. Et du coup, j'avais été très mauvais tout l'été, en fait. Je traînais ma misère. Je faisais les entraînements, hein, mais putain, j'avançais pas, j'avais du mal et tout. Et il y a quelques jours de la TDS, donc c'était peut-être un peu plus rapproché, parce que la TDS, on parle de 15-16 heures d'effort. Donc à 2 semaines de la TDS, je crois que j'avais fait une semaine de repos. Et là, voilà, on est un peu décalé dans le temps, là, avec l'UTMB, mais c'est à peu près la même philosophie. J'avais fait une semaine de repos. Et après, j'avais repris et j'avais fait des petits exos, tu vois, en reprenant. J'avais fait un peu de seuil, un peu de, tu vois, des petits trucs comme ça. Pas trop long non plus, mais quand même. Et putain, le jour de la course, c'était exceptionnel, quoi. Donc, si j'ai les mêmes sensations, là, ça va être absolument génialissime. Donc voilà, Maintenant, il va falloir bien respecter le repos. C'est dur hein, aussi. Hein. Parce que vous voyez tous les autres guignols là, qui sont en train de continuer à s'entraîner. Vous êtes jaloux, vous avez envie d'y aller. Au bout de 3 jours de repos, vous commencez à douter. Bon, faut être solide mentalement. Mais cette année, cette année, il n'y a pas grand-chose qui peut m'atteindre mentalement. Je pense que je suis vraiment dans ma bulle. Aussi bien pour l'entraînement qui est personnel que pour les temps de passage lors de la course. Donc, j'ai atteint une sérénité quand même et une capacité de suivre le plan qui est assez inébranlable. Bon, niveau bouffe, écoute, j'ai fait un très très bon petit déjeuner. Comme me l'a conseillé Sébastien Diffenbrom, j'ai pris et repris du fromage. Donc là, j'ai accès au bleu d'Auvergne. C'est le seul truc qui a à peu près du goût. Les noix de Grenoble aussi. J'en ai mangé ras la gueule, du chocolat noir aussi. Et je pars courir. Et là, c'est vrai, j'ai été un peu léger sur la bouffe parce que j'avais amené que 10 baous. Donc déjà, t'imagines bien que j'allais pas faire 12 heures. Et franchement, au bout de 3-4 heures, j'avais envie de manger un gros sandwich, tu vois. Peut-être j'aurais dû faire ça, tu vois. J'aurais dû amener un gros sandwich ou prendre des sous et aller me ravitailler à Val d'Isère et repartir après. Mais bon, c'était dommage, c'était pas trop sur le parcours. Bon, là, c'est pas grave. Du coup, j'ai quand même fait l'entraînement vraiment en lipolyse. Hein. Vraiment, tu sais, avec 10-15 grammes de glucides à l'heure, tu vas pas loin. Surtout quand t'es dans une semaine de 40 heures. Donc, là, niveau lipolyse, j'ai bossé aujourd'hui. Ouais. Je suis rentré, je me suis fait un repas. Il me restait pas beaucoup de riz. Puis bon, j'allais pas faire chauffer du riz parce que j'avais la dalle. Donc, j'ai mangé mon petit tupperware de riz. Il me restait une escalope, là. Putain, quel délice. Des petites tomates cerises bio, là, qui étaient en train de pourrir à la petite supérette. Là, j'ai pris le soc, là, j'ai tout mis dans le frigo. Bon, c'était à 50%. Oh, fallait pas. Oh. Et une fois que j'avais mangé tout ça, en fait, je me suis dit, Hugo, est-ce que t'as envie de sortir un énième yaourt de brebis, de mettre du miel dedans et de manger ton chocolat noir? Non, ça m'a gonflé. Du coup, je suis allé à la boulangerie et j'ai pris leur délicieuse tarte au citron meringuée. Alors, je vous ai beaucoup parlé du flan. Le flan, il est bon, mais dans beaucoup de villes, tu as des boulangeries qui font des flans de manière vraiment artisanale. Donc, pour le reconnaître, si vous êtes un néophyte du flan, le flan vraiment artisanal, il est très beige, limite blanc, mais surtout pas jaune. Et quand vous le goûtez, vous avez quand même vraiment, vraiment, vraiment le goût du lait dans la bouche. Parce que normalement, un flan, c'est du lait et des œufs. Donc, si vous prenez du lait et des œufs de bonne qualité, c'est plutôt pas mal. Après, il y a toujours un peu de pâte autour. Vous pouvez le faire sans pâte. Ma maman, souvent, le fait sans pâte. Voilà, c'est une tuerie. Une bombe protéique. Bref. Donc ça, c'était à 17h. Et tu vois, là, 20h, 20h30, je vais me refaire un repas. Est-ce que je vais reprendre des tomates cerises? Je suis pas tout à fait sûr. Il me reste des courgettes, sinon. Ça, ici, c'est facile. Hein. C'est tomates, courgettes ou carottes. Hein. T'as le choix entre 3 légumes. Bon, le reste, c'est lunaire, les prix. Ouais, puis là, je vais me refaire chauffer du riz. J'ai du temps. Donc, voilà. Une bouffe plutôt saine, hein, encore aujourd'hui. Voilà. Je préfère, tu vois, me faire une petite touche de plaisir tous les 2 jours avec un petit quelque chose comme ça. Encore que, hein, là, quand on va passer vendredi prochain, on va commencer à faire un peu ceinture, tu vois. Mais jusqu'à vendredi prochain, on va être encore assez tranquille à ce niveau-là. Plutôt que d'aller me faire, tu sais, un gros resto, on va manger une grosse pizza, un gros burger, puis derrière, on dort mal et tout. Ça m'intéresse quand même moins. Puis, la petite touche plaisir de temps en temps, je préfère. Voilà. Donc là, tu l'as compris, hein, pour la bouffe, jusqu'à vendredi 12 août, on est encore dans la compensation. Ah oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, ce matin, ça y est, j'ai revu 98 de saturation. Donc, c'est bien. 42 en pulse. Bon, ça, c'est comme d'hab. Et le poids, 58,8. Donc, je vais tracer une moyenne, hein, au fil des jours parce que le poids, ça varie beaucoup avec l'hydratation. Chez moi, j'ai des écarts. D'un jour à l'autre, je peux quasiment avoir un écart d'un kilo. C'est pour ça qu'il faut regarder à la semaine, faire des moyennes sur la semaine. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus parlant. Donc on verra où se situe la moyenne, mais tant que je suis en dessous de 59 kilos, ça veut dire que je suis très maigre. Enfin, très maigre. Je suis plutôt dans mon poids qui est très très bas. On pourrait peut-être dire poids de forme d'ailleurs. Parce que si vraiment je fais le sociopathe, je dois pouvoir passer en dessous de 58, mais enfin ça va être quand même très difficile. Et à mon avis, je vois à peu près ce qu'il faut faire pour y aller. Et niveau énergie, je pense que ça va être audacieux. Donc vous pensez bien qu'avant l'UTMB, on va oublier tout ça. Hein, on va rester à 59, ce sera très bien. Et puis après, si sans trop me priver, la moyenne aussi à 58,5, écoute, on prendra. Hein, y a aussi des fois des mystères dans tout ça. Niveau soins, aujourd'hui, bah, j'ai absolument rien foutu. Je vais mettre des petites huiles essentielles là, sur mes articulations avant de me coucher. Mais je vais réserver les soins à demain. Et oui, demain, jour de repos. Demain, on va parler soins. Ouais, on va aller au sauna. Il y a mon masseur qui vient. Ça va être la folie. Voilà, demain c'est repos, je vous laisse là-dessus, demain on se fera d'intéressantes comparaisons par rapport à l'an passé, on prendra un peu plus le temps, et puis on parlera récup, puisque quand j'ai donné ma petite question là sur que faire au lagon, est-ce qu'il faut faire du sauna, du hammam, des bains froids, etc., etc., pour la récup, j'ai eu des réponses assez pertinentes de plusieurs personnes, qui sont toujours allés dans le même sens. Donc je vous dirai ça demain. Allez, bonne soirée à toutes et tous. N'hésitez pas à poser d'autres questions comme l'a fait Bart.
Le podcast est à présent terminé et le Duc vous dit à demain si vous le voulez bien.